VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité aux États-Unis. Deuxième jour de la convention républicaine à Cleveland, dans l'Ohio. Donald Trump sera formellement investi aujourd'hui candidat du parti à la présidentielle du 8 novembre. Le mania de l'immobilier a promis hier soir la victoire républicaine à l'issue de cette élection. Et ce, après une première journée de convention chaotique marquée par la révolte de ses opposants. Une révolte qui a échoué. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au programme à la convention? Nous rejoignons immédiatement notre envoyé spécial sur place, l'un de nos envoyés, Idrissa Seloudia.
Au programme, il y a ce soir une soirée qu'ils appellent « Remettre l'Amérique au travail », une allusion à la situation économique que Donald Trump et son équipe trouvent catastrophique. Ils trouvent que la gestion Obama est catastrophique et que Hillary Clinton ne sera qu'un troisième mandat pour Barack Obama. Alors donc, malgré les progrès qui ont été accomplis depuis la grande récession de 2008, les républicains trouvent qu'on n'a pas fait assez de progrès et que Donald Trump remettra les choses sur les rails, littéralement.
Alors, quels sont les orateurs prévus aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une liste de personnalités qui vont prendre la parole?
Il y a une liste, et en particulier, il y aura son fils, Donald Jr., qui joue un rôle clé dans cette campagne. Il y aura aussi une sénatrice que vous connaissez très bien, Henri. Elle est de West Virginia. Et naturellement, là, le problème de l'extraction du charbon, du travail des mineurs est très crucial, puisque c'est la principale source de revenus. Et naturellement, elle n'a pas épargné ses critiques à Hillary Clinton, qui, à un moment donné, avait tenu des propos qu'elle avait regrettés sur les emplois des mineurs qu'il faudrait supprimer.
Voilà, c'était Idrissa Seloudia, l'un de nos envoyés spéciaux à la convention de Cleveland dans l'Ohio. On passe immédiatement à l'Afrique, au Mali, où des hommes armés non identifiés ont attaqué très tôt ce mardi le principal camp militaire de Nampala, localité du centre du pays. Nous avons pu contacter le lieutenant-colonel Souleymane Maïga de l'armée malienne. Il nous donne des détails sur cette attaque.
Ce matin, vers le coup de 5h30, temps universel, donc des éléments armés à bord d'une, au moins une trentaine de véhicules pick-up, lourdement armés, se sont attaqués à nos positions autour de la ville de Nampala. Donc nos forces ont réagi très énergiquement, mais au regard du nombre très élevé des assaillants, au moins les musulmans ont été amenés à se réorganiser en dehors de la ville. Donc nous avons subi malheureusement des pertes. Au moins une douzaine de nos soldats ont péri au cours de ces affrontements.
Mais
nous avons des blessés.
Mais ces assaillants sont-ils toujours dans la ville de Nampala?
Pour le moment, les premières informations, nous avons indiqué qu'après les attaques qui auraient duré jusqu'à vers 7 heures, donc ils seraient retirés vers 45 km de la ville. Bon, nous attendons encore des précisions de nos éléments sur le terrain en vue de donner plus d'amples informations.
Les militaires ont-ils décidé une riposte ou une poursuite?
Il y a des unités qui sont dans les autres localités, dans les environs de la ville, sont en alerte maximum. Donc, les forces sont actuellement en train de se réorganiser en vue de contenir cette situation.
Et la ville de Nampala, est-elle calme maintenant?
Pour le moment, nos informations nous indiquent que les combats ont cessé. Donc, c'est la position que nos éléments tenaient, notamment au niveau de la résidence de la préfecture qui avait été saccagée et pillée par les assaillants. Nous n'avons pas d'autres indications qu'il y ait des combats à l'intérieur de la ville.
Voilà, c'était le lieutenant-colonel Souleymane Maïga de l'armée malienne au micro de Mohamed Touré.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a dénoncé lundi les retards dans les procès d'anciens dignitaires accusés de corruption. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Pour le président Muhammadu Buhari, quand les dossiers ne vont pas au bout, on donne la mauvaise impression que le crime paie. Il a ajouté « cela doit changer ». Autrement dit, il faut accélérer la cadence. La lutte contre la corruption a été l'une des priorités affichées du chef de l'État nigérian depuis son élection à la tête du Nigeria. Le plus gros scandale éclabousse l'armée. Plus de 2 milliards de dollars destinés à la lutte contre Boko Haram ont été détournés. L'ancien conseiller à la sécurité nationale, Sambo Dasuki, est accusé d'avoir orchestré des contrats fantômes avec des firmes d'armement alors que des soldats sous-équipés périssaient sous les balles des djihadistes dans le nord-est du pays. Ce dossier a subi des retards et renvois répétés, empêchant M. Buhari de pouvoir se vanter d'une seule condamnation depuis son arrivée au pouvoir il y a un an. Ses opposants l'accusent de mener une chasse aux sorcières contre l'administration de son prédécesseur, Goodluck Jonathan.
Afrique centrale maintenant, Cameroun, 11 otages dont le maire de la ville de Lagno dans le nord du pays ont retrouvé leur liberté après plus d'un an en captivité. Ils avaient été enlevés par des groupes armés centrafricains. Les 11 anciens otages ont été reçus par les autorités camerounaises. Le point avec Moki Edwin Kinzeka, notre correspondant à Yaoundé.
Le maire de Lagdo, Mama Abakai, se rappelle des mauvais traitements qui leur ont été infligés pendant 16 mois dans les camps du groupe armé centrafricain.
Vous êtes enchaînés deux à deux, vous avez un litre d'eau à partager à deux toute la journée, vous mangez une fois 14 heures. À un certain moment, nous avons perdu l'espoir. Ils nous ont dit qu'ils nous donnaient une date butoir qui était le 31 juillet 2016. Si le gouvernement ne réagissait pas, ils nous finissaient parce qu'ils avaient déjà assez à nous garder.
Deux otages ont été déclarés morts suite à ces mauvais traitements. Un des otages, Daouda Abdoulaye, explique qu'ils ont été arrêtés par un groupe armé qui réclame la libération de la République centrafricaine.
Un groupe de soldats, ils sont du front de FDPC, Front démocratique du peuple centrafricain, guidé par Aboubacar Sidiki.
Le Cameroun dit n'avoir payé aucune rançon pour leur libération. Mais les anciens otages expliquent que les groupes armés réclamaient de l'argent avant de les libérer. Moki, Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
En RDC, c'est toujours l'incertitude sur la tenue éventuelle de l'élection présidentielle. Le mandat du président Joseph Kabila va bientôt se terminer et aucune date n'est retenue jusqu'à présent pour choisir son successeur. Olivier Kamitatou, président de l'Alliance pour le renouveau du Congo et vice-président du G7, un groupe de 7 partis politiques passés à l'opposition, appelle à des négociations urgentes.
Ce que nous voulons clairement, c'est éviter la burundisation du Congo. Nous voulons éviter de retomber dans des conflits. Nous voulons éviter la violence. Nous voulons éviter l'instabilité. Et pour cela, nous appelons le président Kabila à se ressaisir, à dire clairement qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat. D'abord qu'il commence par là, qu'il réouvre l'espace politique, qu'il libère les prisonniers politiques, qu'il cesse les poursuites judiciaires contre les opposants, qu'il réouvre les médias privés, qu'il cesse le dédoublement des partis politiques, qu'ils s'investissent réellement maintenant pour des élections et qu'ils sortent par la grande porte.
Olivier Kamitatou, président de l'Alliance pour le renouveau du Congo et vice-président du G7, un groupe de 7 partis politiques passés à l'opposition. Rwanda, le sommet des chefs d'État africains qui s'est terminé hier à Kigali, s'est prononcé pour l'envoi d'une force régionale de protection au Soudan du Sud, avec un mandat plus robuste que celle de la mission onusienne sur place. D'après Smaïl Cherghi, qui est commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, l'ONU n'a pas le mandat adéquat pour imposer la paix et les troupes africaines sont prêtes à s'engager dans des situations très difficiles. L'Éthiopie, le Kenya et le Rwanda sont prêts à fournir des troupes, mais le feu vert du Conseil de sécurité est nécessaire. Et pour terminer, en France, l'exécutif français très critiqué sur sa politique antiterroriste depuis l'attentat de Nice se prépare à un débat parlementaire houleux sur la prolongation de l'état d'urgence. Ce débat doit avoir lieu mardi et mercredi à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info.